avant de cette parenthèse sonore, nous parlions de Dogon. Nous allons nous envoler et quitter cette terre d'Afrique. Et nous allons continuer à survoler ton univers littéraire. Alors, moi, ce que j'aime... C'est mal dit, mais bon, c'est très bien que ça soit mal dit. Je reviens pour cela à notre entretien préalable qu'on avait eu chez Auguste. Et j'aimerais que tu ricoches sur des noms d'auteurs comme ça que tu n'as toujours pas évoqué là. Par exemple, ça, tu m'en avais même parlé avant, peut-être, Roth.
Ouais, Philippe Roth. Ouais.
Philippe Roth, De Beauvoir, alors ça va partir dans tous les sens. Pasolini, Sade,
Zagdansky.
Merci, excuse-moi.
Oui, ça c'est mon ami.
Voilà. Allez, on ricoche.
Stéphane.
Alors on commence par où tu veux. Clac, clac, clac.
On va commencer, je sais pas. Ben, Philippe Roth, évidemment, c'est un auteur dont je ne rate aucun livre depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Il a écrit notamment un livre un peu exceptionnel qui s'appelle Opération Shylock, c'est-à-dire sur la question du double, de l'écrivain et du double. C'est un écrivain qui ironise beaucoup son milieu d'origine, son milieu juif américain d'origine. C'est quelqu'un qui parle beaucoup d'érotisme. Mmh. C'est un auteur qui, justement, il y a deux facettes dans son œuvre. Hein. Il y a une facette sombre et une facette plus claire, plus gay, quoi. Voilà. Donc, moi, je préfère la facette, effectivement, plus solaire de Philippe Roth. Il faut lire tous ses livres et à chaque fois il y a une énergie, il y a une précision, il y a une ironie aussi de ça, c'est ça qui m'intéresse beaucoup de sa position d'écrivain, parce que quand dans l'opération Shylock, c'est l'histoire d'un double qui s'appelle également Philippe Roth, qui est en Israël, qui est antisémite, et voilà, et donc il l'appelle, et il lui dit, voilà, mais Philippe Roth, oui, c'est moi, je m'appelle Philippe Roth, tout ça. Mmh. Donc il sait pas trop comment démêler cette histoire de double, cette imposture, cette imposture de personnage, et voilà, et donc c'est très drôle, c'est assez complexe, et des moments, d'ailleurs, des moments, on a un peu du mal à s'y retrouver dans les films d'accord. de Roth, qui sont très très complexes.
T'as dit dans les films.
Dans les films, oui, dans les films, oui, c'est ça, les films, les livres, ça se mélange, tout ça.
Ouais, c'est beau, c'est beau. Ouais. Bien, on continue. Alors évidemment, on survole, on est d'accord hein, oui. qu'on pourrait faire peut-être des heures juste sur un écrivain, mais bon. Oui. De Beauvoir aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de femmes, mais bon, peut-être que...
Malheureusement. Beauvoir, moi j'ai lu essentiellement ce qui m'intéressait, c'était son manifeste, hein, le deuxième sexe, que je lisais quand j'étais à Nancy, malheureusement, en régimenté, dans une histoire pitoyable d'obligations militaires. Mmh. Et donc, je lisais...
Oh,
je...
à vous, tu regrettes. Non,
je... Oui. Je regrette. On parlait de l'uniforme au début. Hein.
Voilà.
On n'a aucun uniforme, si possible. Sauf le jean, parce qu'il est obligatoire, celui-là. Et donc, Beauvoir, oui, Beauvoir, c'est justement... Beauvoir, c'est la parole féminine, la liberté par rapport à Sartre...
Surtout recontextualiser déjà.
Et puis la féminité, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que la question de la femme aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on dit quand on est un homme, mais il y a à la fois une revendication et à la fois un maintien, je trouve, moi, de sa féminité, hein, cette image où elle est de dos, nue.
Mais surtout à cette époque.
C'est à la fois un peu provocateur et c'est à la fois très féminin. C'est-à-dire, voilà, c'est gracieux, voilà, donc c'est une grande intelligence. Le Beauvoir, c'est une belle vue, le Beauvoir, évidemment. Donc Simone de Beauvoir, eh bien, elle nous permet de comprendre comment l'homme et la femme devraient coexister le mieux possible, sans tension. Avec un respect mutuel, évidemment. Moi, j'ai été élevé par des femmes et ça s'est toujours bien passé, on va dire. Voilà. Moi, j'ai toujours été accompagné de femmes dans ma vie. Et Beauvoir m'a beaucoup intéressé. Parce que je n'ai pas trop trouvé de militantisme. Je trouvais qu'il y avait comme c'était un écrivain, elle n'était pas dans l'idéologie vraiment. Elle dépassait ça. C'était, même dans ses romans, on voit bien que ça, c'est des histoires, c'est un positionnement très libre. C'est une situationniste avant l'heure, je dirais.
Oui, t'as pas parlé de Debord aussi un peu.
Ah, mais de Debord, le situationnisme, voilà, oui, bien. Mais je vais pas parler de Debord. Ben Debord, c'est quoi? C'est la critique essentielle de la société du spectacle, dans laquelle nous trouvons englués jusqu'au cou. Donc pour ça, il faut savoir s'en sortir. Guy Debord et Solaire, c'est les deux grands pôles, moi je pense, de la pensée de la fin du XXe siècle. Bon, Solaire, c'est encore là au début du XXIe, bien sûr. Et il y en a un qui a choisi une surmédiatisation pour mieux ne pas se faire voir, c'est Solaire. Et il y en a un qui a choisi une position de repli. Leurs deux stratégies sont pour moi complémentaires. Voilà.
D'accord.
Il y en a un qui est plus romancier, évidemment, Solaire, plus littéraire, et l'autre qui est plus, comment dire ça, essayiste, analyste, mais voilà. Ouais. Donc la société du spectacle, comment on a les nouveaux commentaires sur la société du spectacle, comment depuis Hitler, en passant par Staline, en passant par la phase américaine, comment ces différents spectaculaires intégrés, spectaculaires diffus et spectaculaires concentrés, je crois que je l'ai dit dans le désordre, mais c'est pas grave, nous permettent de comprendre dans quel carcan on vit, quoi. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans un carcan du spectacle.
Oui.
Si on passe dans le spectacle, on est connu. Si on passe pas dans le spectacle, on est inconnu.
Oui.
Donc,
c'est-à-dire
restons inconnus le plus
possible. C'est ce qu'il dit au début. En plus, tout ce qui se vivait autrefois d'une manière sans témoin, en fait, aujourd'hui...
Ça s'appelle la surveillance, de toute façon.
Ouais.
La surveillance qu'il y avait sous le nazisme, qu'il y avait sous Staline, au combien avec la Stasi, et qu'il y a aujourd'hui avec l'Empire américain, quand même.
Mais qui est introjecté aujourd'hui
qui est introjecté dans nos portables,
puisqu'on
a des films qui peuvent... Mais ça, c'est... Et le problème, c'est qu'on peut, on peut à la fois le critiquer, mais on ne peut pas en sortir.
C'est ça.
Ça, c'est sûr. C'est
impossible. Mais parce que...
Personne ne peut en sortir.
Mais parce
même
que...
Le berger des Landes qui vit dans un coin reculé.
Oui, parce qu'on est dans ce monde-là.
Et sinon, c'est Robinson Crusoe, mais Robinson Crusoe...
Non, mais c'est plus possible aujourd'hui, à cause de la technologie.
On est surveillé partout. Alors après, il y a quand même des zones de repli, je pense, mais... Voilà, par rapport à certaines heures, à certaines saisons, on peut se replier. Enfin, il faut le souhaiter.
De toute façon... Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Sad.
Oh, mais là, Sad, c'est le gros morceau. Ça.
Voilà, mais bon...
C'est le gros morceau, c'est le gros morceau.
Malheureusement, c'est un peu la peau de chagrin de l'émission, et ça va être
un gros morceau. Sad, de toute façon... Moi, je pense qu'il faut penser... Pour moi, les trois... Je pense que les pourfendeurs du préjugé social, ou enfin, en tout cas de la société, c'est Sade, d'abord, qui vient...
Il faut le recontextualiser aussi. Hein.
Sade, en fait, il n'écrit, selon moi... que sur l'hypocrisie sexuelle. Voilà. Il ne raconte pas ses affres sexuelles, parce qu'il ne pourrait pas en faire le centième. Et d'ailleurs, il n'a assassiné personne. Il a un peu molesté des filles de joie. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque. Et donc, après, son œuvre, c'est une œuvre théâtrale. C'est une œuvre romanesque. C'est ça qu'il faut comprendre.
Voilà.
On peut pas, si on prend ça au premier degré, au secours. Ça, oui. C'est un auteur.
C'est comme Clos pour Les Liaisons Dangereuses, quoi.
Voilà, en quelque sorte. Alors, il y a quelque chose de l'expérience, mais dans Les Liaisons Dangereuses, c'est pas très grave. Chez Sade, c'est.
Oui, mais je veux dire, dans le sens de confondre.
Voilà, c'est des choses qu'on peut plus dire. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des assassinats, c'est-à-dire, c'est la pulsion sexuelle. C'est-à-dire, c'est faire avouer, je sais pas si on peut dire ça sur la radio, mais tant pis, c'est faire avouer qu'en fait, on a une pulsion criminelle en nous, et que si on n'a pas conscience de cette pulsion criminelle, on devient assassin. Mais si on lit Sade, justement, on sera préservé peut-être de ce passage à l'acte qui est le meurtre. Moi, voilà. Donc, voilà, c'est.
Du
c'est,
coup, on
c'est
peut faire un lien aussi avec Pasolini et son cinéma sur ça,
complètement,
justement,
complètement.
Qui est insoutenable. Hein. Enfin, moi,
c'est insoutenable parce que ça, on n'est pas obligé. Enfin, le livre est déjà insoutenable, les 120 journées de Sodome, mais
Pasolini.
Mais chez Pasolini, il y a effectivement. Alors, ce qui est le.
Mais je crois qu'il a regretté en plus ce film.
C'est le côté des excréments. Enfin, c'est là, c'est pour dire ça dans un langage un peu châtié. C'est la partie des excréments où les gens sortent. La partie à se torture, oui, mais bon. Aujourd'hui, on a Tarantino qui fait ça très bien, machin. La torture. Mais l'excrément, quand même, à part John Waters, personne a montré ça comme ça. John Waters, lui, c'est un peu plus ludique, c'est avec Givine. Là, John Waters. On parlait aussi de l'underground. Ben là, on est dans l'underground, hein, avec Pasolini, avec Sad, avec John Waters. Avec Burroughs, on est dans l'underground. Et l'underground, ben, c'est de sous la terre, c'est ce qu'il y a sous la terre, donc c'est ce qu'on veut pas voir.
Ouais.
Bon, à Bordeaux, il n'y a pas d'underground puisque le tramway il est aérien, etc. voilà. Mais Pasolini, après, ouais, mais ça c'est super, c'est un immense poète, grand scénariste. Il y a un film de Mario Bolognini, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Les Garçons, avec Terzieff et Briali. Qui est extraordinaire. C'est-à-dire, tout le monde couche avec tout le monde du début à la fin du film.
D'accord.
Donc, je ne sais pas si on peut dire ça, mais je le dis quand même, c'est un grand film.
Bon. On va dérouler, on va pratiquement arriver à la fin. Tu peux nous parler peut-être de l'écrivain d'abord et ami Stéphane
Zagnoski.
Voilà. Et puis ensuite, pour finir, tu nous liras un passage de Kooning. Oui. Et ensuite, on prendra rendez-vous. Pour un deuxième volet.
Je suis honoré.
Chez toi.
Je suis honoré. J'espère que je serai à la hauteur.
Parce que là, c'était une émission un peu spéciale où l'enregistrement s'est déroulé dans l'ancien atelier de Claude et Sophie Chambard. Donc,
quel honneur.
Voilà, je ne savais pas que. Où j'habitais.
C'est très bien.
Le sait-on jamais.
Oui.
Donc Zagdanski
oui.
D'abord.
Alors oui, Stéphane Zagdanski. Ben, lui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré autour des années 2000 à Toulouse. Et j'étais intéressé parce qu'il traitait à la fois la question Céline et la question Proust. Et je me dis quand même comment on peut faire ça. Donc j'avais lu un article dans l'Infini qui s'appelait Céline et Proust, et tout de suite je me suis dit quand même quelqu'un qui est capable de faire cette synthèse à la fois sans préjugés sur Céline et puis la cathédrale qu'est l'œuvre de Proust.
Oui, donc, alors que lui-même, tu veux dire, en plus, est juif.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc cette question des pamphlets, en tant qu'effectivement... appartenant à la communauté juive, c'était quand même assez exceptionnel.
Ouais.
Depuis, il a écrit un livre extraordinaire aussi qui s'appelle De l'antisémitisme, ou peut-être qu'il avait écrit avant, je ne sais plus. Et voilà, et on s'est rencontrés, et on est devenus...
Amitié.
Il y a eu une amitié, effectivement. Moi, j'ai toujours été impressionné parce qu'il avait une œuvre, justement... considérable, et aujourd'hui il a décidé plutôt de se consacrer aux arts plastiques.
Voilà. Mais d'une manière radicale quand même.
De toute façon, dans tout ce qu'a fait Stéphane, ça a toujours été radical.
Ouais.
Et c'est en cela que c'est remarquable et que ça a pu faire, dans le cas du milieu théâtre, des frictions irréconciliables.
Oui,
mais
oui.
Ça, c'est le jeu.
Mais après...
je ne pourrais pas parler de ça. Mais ouais. après, on a fait un film. Ouais. Donc, en 2006, me concernant, on a pu faire... ce film qui s'appelle Résurrection de Proust.
Donc il y a une vidéo aussi.
Il y a une vidéo.
Que tu vends aussi ?
Que je vends.
C'est compliqué pour eux parce qu'on ne les voit pas, on ne les trouve pas sur Internet. T'es pas marchand, toi.
Non,
la société du spectacle avec toi, elle n'a pas de beaux jours.
En tout cas, ce n'est pas la société marchande.
Voilà, marchande.
Mais voilà, donc on a fait ce film. Alors on a eu la chance, ça c'est un peu pour rigoler parce que c'est à la fois la frime mais à la fois c'est drôle parce qu'on ne se prenait pas trop au sérieux. On a pu aller au Ritz. On a tourné une scène au Ritz. Donc ça c'était rigolo. Et simplement en faisant un petit mail au Ritz. Et donc Stéphane commence le truc comme ça, à propos de Proust, il commence et il dit, je cite ces mots, il dit « Qu'est-ce qu'un classique ? C'est quelqu'un dont tout le monde parle, mais que personne ne lit. »
Oui.
Voilà. Donc, voilà, et donc le film est tout à fait bon. Visible. Et voilà.
Bon. Très cher Jean-Hugues, voilà bientôt une heure et quart que nous déambulons, moi, c'est les passages musicaux. Oui. J'aimerais, est-ce que tu nous ferais le plaisir de lire un passage de ton ouvrage, Le rire de De Kooning ?
Mais je vais essayer.
Mais oui.
On va voir ça.
Je te remercie et donc je te dis à très bientôt chez toi où on va faire connaissance avec des livres en particulier, plus particulièrement tes livres.
D'accord.
À toi.